Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Avant de retrouver nos invités pour parler des réponses des autorités malgaches pour faire face à la crise alimentaire dans le sud de l'île, voici votre rubrique décryptage. Écoutez.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Kameni Angelbert, bonjour.
Bonjour, madame.
Coordonnateur diocésain de la santé de l'archidiocèse de Douala au Cameroun, proche collaborateur de l'archevêque de Douala, Samuel Clida. Le ministère camerounais de la Santé a homologué à Zac Covid et Elisi Covid deux médicaments contre le Covid-19 proposés depuis quelques mois par Mgr Samuel Clida. Comment s'est déroulé le processus d'homologation?
C'est depuis pratiquement un an que nous avons mis sur pied un protocole thérapeutique de la COVID-19. Alors, comment cela s'est passé? Le ministère a mis sur pied une commission ad hoc chargée de faire des analyses sur ce protocole thérapeutique. Et c'est au cours de toutes ces analyses avec des propriétés bien vérifiées qu'aujourd'hui nous arrivons à cette conclusion, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché du protocole thérapeutique de Mgr Samuel Clida.
Vous affirmez que ces médicaments sont efficaces contre le Covid-19?
Évidemment, madame, puisque je ne voudrais pas revenir sur les statistiques, mais je puis vous dire qu'aujourd'hui, nous avons soigné, je dis bien soigné, environ 20 000 patients, aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur du Cameroun. Donc, le produit, je le dis et je le confirme, il est efficace contre la COVID-19. Évidemment, l'autorisation de mise sur le marché veut exactement dire que désormais, nous pouvons commercialiser ce produit partout au Cameroun et pourquoi pas ailleurs.
Le Soudikov plus le Palubex, de même que le Corocure proposé par d'autres chercheurs camerounais, ont également été homologués. Ne risque-t-on pas d'y voir un manque de rigueur dans la procédure d'homologation de la part des organismes sanitaires compétents?
Je puis vous dire qu'il y avait plus que ça. Le nombre a été assez grand. Et c'est au cours de toutes ces analyses, de toute cette sélection et de toute la rigueur scientifique que je pense que ce nombre a été retenu.
Pour le dernier Corocure, il a précisé cependant qu'il s'agit d'un adjuvant et non d'un traitement contre le coronavirus. Quelle est la différence?
Justement, adjuvant ici veut dire qu'il vient en appui, n'est-ce pas, à un autre déjà existant. Mais vous convenez avec moi que jusqu'à présent, il n'y a pas un médicament reconnu qui traite. Mais cependant, au niveau du Cameroun, il y a un protocole national qui est reconnu. Donc, si on parle d'adjuvant, pour moi, c'est que les deux protocoles peuvent aller ensemble.
L'adjuvant, en fait, c'est un traitement qui complète un traitement principal pour prévenir un risque de récidive. Est-ce que cela signifie que le Corocure, par exemple, est administré après ASA-COVID et ELISI-COVID?
Alors, ça, c'est ce qu'on peut comprendre de façon littérale, mais de façon pratique, on peut prendre l'un comme l'autre ou les deux à la fois pour traiter cette maladie. Donc voilà, sur le plan pratique, et en tant que praticien, ce que je peux vous dire, pour ne pas rester dans la littérature où on comprend très bien ce que veut dire un adjuvant, mais sur le plan clinique, c'est que l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, peuvent être efficaces contre la COVID-19. Alors, ce produit qui est déjà non toxique, scientifiquement vérifié, est administré généralement à toutes les personnes atteintes de la COVID-19.
Quel qu'en soit le stade?
Oui, quel qu'en soit le stade. C'est vrai que il faut parfois tenir aussi des rigueurs thérapeutiques, parce que un médicament va s'administrer selon l'âge et le poids, surtout le poids corporel.
Quel est l'avis de l'OMS sur la décision du ministère camerounais de la Santé d'homologuer ces deux produits?
Évidemment, je pense que le ministère de la Santé de la République du Cameroun ne fonctionne pas en marge des exigences de l'OMS. Donc je pense que toutes ces analyses, tout ce protocole qu'a suivi, n'est-ce pas, les analyses pour en arriver là, sont un protocole, n'est-ce pas, sont des protocoles respectés ou bien alors prescrits par l'OMS.
Donc pour vous, rien ne s'oppose plus à une homologation de AZA-COVID et ELISI-COVID par l'Organisation mondiale de la santé?
Je dirais qu'il n'y a plus autre chose, une autre homologation secondaire à celle-ci, puisque ce sont les exigences, n'est-ce pas, scientifiques de l'OMS qui ont été respectées pour que AZA-COVID et ELISI-COVID soient homologués pour la mise, n'est-ce pas, sur le marché.
Docteur Kameni Engelbert, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Coordonnateur diocésain de la santé de l'archidiocèse de Douala au Cameroun et proche collaborateur de l'archevêque de Douala, Samuel Cléda.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission ce soir. La crise alimentaire qui touche le sud de Madagascar, plus d'un million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë d'après les Nations Unies, et on s'attend à ce que certains districts rejoignent d'ici la fin de l'année la liste de ceux déjà en situation de crise alimentaire qui risque d'ailleurs d'empirer à partir de janvier 2022 si rien n'est fait. Alors que font donc les autorités face à cette catastrophe qui se profile? Les mesures de riposte devant cette crise alimentaire sont-elles les plus adaptées pour éviter le pire? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Grégory Sileni, bonsoir.
Bonsoir Liliane.
Vous êtes journaliste et cofondateur de Madagascar Média. Merci d'être avec nous. Merci également à vous, Philippe Radjouana, bonsoir.
Philippe Radjouana, oui, bonjour Liliane, bonjour à tous les auditeurs.
Analyste politique et ancien vice-président du parti fondé par Feu Eri Razafima Haleo. Vous êtes de passage à Paris, monsieur Radjouana. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Rabé Nassoul Adriamanga Nana, qui est le président de Fraternité protestante des Malgaches et Magachophiles en France, ici à Paris. Il n'est pas encore en ligne avec nous. Je vais commencer avec vous, monsieur Radjouana, qui est basé sur l'île. Dites-nous, quelles sont les causes de la crise alimentaire qui touche le sud du pays? Il y a plusieurs avis qui sont donnés, d'autres parlent d'une sécheresse sans précédent qu'enregistre cette partie du pays depuis près de 40 ans. Mais quelle est votre analyse des causes de cette crise?
Oui, d'abord, mon nom c'est Philippe Radjouana en malgache, hein, Radjouana, en français. Je réside à Paris, mais je vais souvent à Madagascar et je suis en liaison avec plusieurs activités à Madagascar, dont le parti politique Leader Family dont vous avez parlé, mais également d'autres structures comme le Club 1808, qui est une instance qui est active actuellement dans tout ce qui est activité citoyenne pour la lutte contre le Covid, notamment. Et actuellement, on vient de lancer un appel, ce qu'on appelle l'appel du 26 juin, pour inviter tous nos compatriotes à participer à aider le PAM, le Programme alimentaire mondial Madagascar, directement.
D'accord. Avant de venir, d'arriver à ces actions qui sont entreprises pour tenter de soutenir les actions à la fois du gouvernement et du Programme alimentaire mondial, est-ce qu'on peut dire un mot rapidement sur votre analyse? Quel est votre diagnostic? Parce que c'est une crise qui perdure.
D'accord. On parle de constat, hein, qu'il y a une famine mais qu'il n'y a pas de conflit et que c'est l'impact du changement climatique. Mais en fait, même si actuellement on parle de réchauffement climatique, cette année il y a eu le Tioumen, qui est la tempête de sable, avec la pandémie également, on peut dire quand même que ce qui se passe actuellement à Madagascar n'est pas conjoncturel ni contextuel, c'est structurel en fait, parce que le pays est en lutte permanente contre la pauvreté et actuellement il y a toujours il y a un enclavement. Il y a une égalité de développement du territoire et on peut dire malheureusement qu'il y a une économie à plusieurs vitesses et qu'il y a le Madagascar d'en bas et il y a le Madagascar de loin, de très loin, ceux qui sont loin du centre, loin des décisions. Et quand il y a des problèmes naturels comme ce qui se passe actuellement, les difficultés pour l'agriculture, les gens n'ont pas assez pour survivre, donc on arrive à la famine. Et c'est une lutte permanente contre la pauvreté et que malheureusement, la population a perdu. Et Madagascar a une population qui est fatiguée et il n'y a pas d'émeute contre la faim chez nous. Mais il y a cet appel en disant il faut qu'il y ait des prises de responsabilité. Et moi, je pense qu'il y a une prise de responsabilité de l'État, mais il y a une solidarité des citoyens également à faire. Et
on verra tout à l'heure quelles sont les actions aussi, voilà, les initiatives.
Le constat le plus, on va dire, le plus pertinent, en fait, c'est celui de Michel Saint-Lô, si je peux le citer, le représentant de l'UNICEF à Madagascar, qui a dit qu'actuellement, il faut mobiliser 100 millions d'euros d'aide, alors qu'il y avait un programme depuis des années.
Pardon, Monsieur Radjana, permettez qu'on va dans le débat tel qu'il est structuré. Donc, concentrons-nous d'abord sur les causes principales. Hein. Vous en avez énuméré certaines. Je vais voir avec Monsieur Siléni, est-ce que vous partagez l'analyse que vient de faire Monsieur Radjana sur les causes de cette insécurité rapidement, et on entendra notre troisième invité qui vient de nous rejoindre.
Oui, je partage en partie ce que vient de dire Philippe concernant la situation dans le sud de Madagascar. C'est une situation qui est structurelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que avec l'ensemble des acteurs qui sont présents dans la région, dans le sud, à savoir les institutions internationales qui sont présentes, notamment, on a parlé du
programme alimentaire mondial.
Programme alimentaire mondial, les associations également, les ONG.
MSF et autres.
Exactement. Il y a aussi, finalement, toute une. On peut quand même le dire aussi, une récupération médiatique par rapport à ce qui se passe dans le Sud. On entend beaucoup des gros titres sur la presse internationale qui viennent dire que c'est lié principalement au changement climatique, alors que les causes sont beaucoup plus nombreuses et on ne peut pas uniquement se polariser sur ce point-là.
Monsieur Radjana parlait de l'inégalité dans les investissements. D'autres sources évoquent aussi des détournements, des enveloppes destinées à améliorer la situation des populations du sud de l'île.
Je pense que justement, c'est sur le point sur lequel j'allais revenir avant d'aborder celui que vous venez de mettre en exergue, c'est déjà, oui, il y a un vrai problème de décentralisation au niveau du territoire et forcément, il y a un enclavement là-bas de la population qui se retrouve totalement isolée du reste de Madagascar. Et notamment, on sait qu'avec les problèmes d'accès à l'eau, c'est l'un des problèmes aujourd'hui prégnants sur cette région-là. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous dis qu'il y a une multiplicité d'acteurs, le fait est qu'il n'y ait pas, normalement, l'État est censé jouer un rôle central et de mettre une coordination avec l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir donner une ligne, une vision et pouvoir amener des solutions. Et le fait est que d'un côté, on a les ONG, de l'autre, on a les représentants des institutions internationales et de l'autre, on a l'État. On se retrouve face à des difficultés où, en fait, chacun peut quelque part se renvoyer la balle. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une coordination.
Monsieur Siléni, on reviendra dans un instant à évoquer les actions menées, notamment par le gouvernement sur place, face à cette crise. On écoute Monsieur Rabenasoul Adria Mangana Naï. Vous êtes là?
Oui, je suis là.
J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, Monsieur Adria Manga Nana.
Bon, c'est tellement difficile que c'est facile à écorcher. On
d'accord.
Va se contenter de grands pas.
D'accord. Dites-nous votre analyse de la situation. Qu'est-ce qui explique que la crise alimentaire persiste dans cette partie de Madagascar? Sans répéter les autres causes déjà mentionnées, s'il vous plaît, par les deux précédents intervenants.
D'accord. Les interventions qui ont été faites au préalable, je ne peux que m'y souscrire. Mais mon intervention, pour moi, je voudrais le mettre sur deux modes. Un mode perspective, si vous RNP, un mode prospectif. Et pour moi, ce qui se passe actuellement, ce curé que j'appelle le curé de la session 2019-2021, est une aubaine. En même temps, quand même cette qualification d'interpellation. Une aubaine, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de voir jusqu'où on peut aller lorsqu'on est dans un système de libéralisme débridé sous la domination de la finance. Alors, on se retrouve actuellement dans un bénéfice inattendu, inespéré, une aubaine, quoi. Une aubaine pour quatre acteurs concernés. Il y a d'abord les tenants du pouvoir. On en a suffisamment parlé, mais je voudrais juste résumer que pour les tenants du pouvoir, cette querelle session 2019-2021 est une opportunité.
Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, M. Rabenassoul, qu'il y en a qui profitent de cette crise pour s'enrichir?
Évidemment, c'est ce que j'appelle une aubaine escroquée. Ils poursuivent la quête incessante d'aide financière en toute impunité et faisant fi de toute exigence de transparence. Donc, c'est le premier acteur qui est concerné.
D'accord.
Comme deuxième acteur concerné, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Pour eux, c'est une opportunité aussi, le fait on le dit peut-être un peu cyniquement, c'est une opportunité pour se faire connaître encore plus et justifier leur action, leur existence.
Merci.
De demande de fonds.
Merci, M. Rabenassoul. On viendra justement dans quelques instants ouvrir notre débat, hein, cette seconde partie sur les actions menées jusque-là par les autorités pour faire face à cette crise alimentaire.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle réponse le gouvernement malgache propose-t-elle face à la crise alimentaire dans le sud de l'île? Ses réponses sont-elles adaptées? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Grégory Sileni, journaliste cofondateur de Madagascar Media. Rabenassoul Adriamaganana, président de la fraternité protestante des Malgaches et Magachophiles ici en France, et Philippe Rajuana, qui est analyste politique et ancien vice-président du parti fondé par Feu Eri Razafima Haleo, qui donc ici à Paris. Et je vous donne la parole, Monsieur Rajuana, pour parler de votre appréciation de ce qui a été ou de ce qui est fait jusque-là par les autorités malgaches pour faire face à cette crise alimentaire dans le sud de votre pays?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette question du kéré n'est pas seulement de cette année 2021. Malheureusement, cela date de plusieurs décennies maintenant. J'ai cité tout à l'heure les causes qui n'est pas exhaustive, hein, l'enclavement, le centralisme exacerbé, l'inégalité.
L'enclavement dont se plaignent d'ailleurs les ONG qui compliquent leur accès aux populations.
Exactement, l'inégalité de développement du territoire, on en a parlé tout à l'heure, mais également le fait qu'il y a l'insécurité, les zones rouges, comme on dit, où il y a ce qu'on appelle les DAL, les bandits de grand chemin.
Le vol des zébus font que les populations n'ont plus leurs animaux pour pouvoir travailler dans les champs.
Donc pour nos éditeurs, il faut préciser que Madagascar, c'est pas la famine dans tout Madagascar. Madagascar, il y a des parties qui se développent très bien, mais il y a cette inégalité qui fait que cette partie de Madagascar, le sud, est actuellement victime et menacée par une famine. Malheureusement, ça va toucher entre 400 000, 500 000, voire 1 million de personnes, et c'est dramatique en 2021.
Mais pardon, avant de poursuivre votre réponse sur votre appréciation de ce que fait le gouvernement, il y a certains, puisque vous semblez dire que c'est assez centré sur une partie du pays, ce n'est pas l'ensemble de l'île, mais est-ce que c'est juste, donc, on entend d'autres parler de l'Éthiopie des années 80?
Alors,
vous pensez que c'est exagéré?
Non, on ne va pas aller au misérabilisme ou sensationnalisme, mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement est très grave
et ça touche nos compatriotes, ça touche une partie du sud de Madagascar. Maintenant, comment ça se fait que cette partie, de manière récurrente, se retrouve face à la même problématique? Voilà la question. Et là, c'est l'enclavement, en premier lieu, le fait qu'il n'y a pas de mesures pérennes. Et c'est pour ça que, vous savez, on parle toujours du fameux « il faut donner un filet au lieu du poisson ». Mais les deux, dans le cas précis, sont utiles. Il faut donc…
D'accord. Pour l'instant, dites-nous, ouais, quelles sont les mesures qui ont été prises et qui sont, pour le moment, permettent de contenir la progression de cette crise et comment appréciez-vous ce que fait le gouvernement ?
Donc, actuellement, s'il y a les actions emmenées par PAM Madagascar, il y a l'UNICEF, les organismes internationaux qui sont là, avec les ministères. Mais ce sont des actions, on va dire, du médecin, je ne vais pas dire après la mort, mais ce sont des mesures pour faire face à la situation il n'y a pas eu de mesures on va dire, d'anticipation. Tout à l'heure, j'ai cité le représentant de l'UNICEF qui disait qu'il y a il y a 20 ans, on aurait pu déjà, avec 60 millions de dollars, mettre en place un système d'irrigation d'eau qui, avec des pipelines, qui permettait de faire face à cette sécheresse récurrente. Parce que, comme vous savez, on est sur les tropiques, il y a une zone semi-désertique qui est sujet à sécheresse, et ce sera le cas pendant longtemps, surtout avec le réchauffement climatique. Mais la mise en place de dispositifs pérennes n'a pas été choisi comme priorité par
le. Excusez-moi, Monsieur Radjona, vous dites ce qui n'a pas été fait. Je suis en train d'abord de vous demander qu'est-ce qui est fait actuellement et que vous jugez peut-être insuffisant. Je vais revenir à vous. On va écouter les autres. Monsieur Sileni, vous, est-ce que je prends l'exemple, le gouvernement a envoyé des engins de construction sur place, des routes pour améliorer l'accessibilité à ces zones. Il y a également des appels qui ont été lancés en direction des partenaires privés pour essayer de régler le problème d'eau avec des stations sur place. Et aussi donner des semences améliorées aux populations. Qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de ces mesures? Est-ce qu'elles vous satisfont ou elles ne sont pas assez et suffisantes?
Oui, je vais répondre tout de suite à votre question, mais permettez-moi juste de rajouter quelque chose quand même d'important pour les auditeurs. Parce que c'est vrai, quand on entend ce qui se passe à Madagascar, on a l'impression que c'est la famine dans tout le pays et on parle beaucoup de choses qui ont marqué l'histoire, que ce soit le cas de l'Éthiopie ou encore le Biafra. On n'est pas non plus dans des situations comme celle-ci. Après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est un problème qui date maintenant depuis plus d'une cinquantaine d'années. Donc voilà, il faut bien resituer ce contexte, c'est très important. Pour revenir aux solutions, ce qu'on peut dire, c'est à plusieurs niveaux. Il y a déjà quand même une prise de conscience aujourd'hui des autorités locales qu'il faille agir et que la solution sera endogène.
Elle viendra. Comment se manifeste cette prise de conscience aujourd'hui dans les actes? Comment se traduit-elle?
Cette prise de conscience, il y a un centre de commandement opérationnel contre le Kéré, parce que vous savez, c'est le Kéré dont on parle en famine en malgache, qui a été mis en place sur place. L'idée, c'est que non seulement qu'il y ait des instances de coordination qui soient là au niveau local, il y a aussi le maillage territorial, on en a parlé tout à l'heure dans le diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a des gouverneurs qui ont été mis en place, et du coup, le gouverneur devra rendre compte aux autorités centrales sur ce qu'il va mettre en place au niveau local. Et par ailleurs, il y a aussi les centres de réhabilitation nutritionnelle et médicale pour permettre à cette population d'accéder aux soins, d'être au plus près de la population et qu'on puisse résoudre la problème de famine. Parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été données. Je pense encore à la dernière, celle des États-Unis, si je ne me trompe pas, qui a plusieurs millions de dollars qui a été transmise, qui a été en tout cas allouée à la région. Le souci, c'est qu'on donne de l'argent, mais il n'y a pas de coordination, il n'y a pas toute une stratégie qui est mise en place avec une vision pour pouvoir régler ce problème de famine. Et cela, ça induit plusieurs choses. Permettre déjà de diversifier l'appareil productif et prendre en compte le changement climatique, c'est ça aujourd'hui l'un des mots dans la région de l'extrême sud. Et par ailleurs, on voit aussi aujourd'hui, il y a une volonté de mettre en place des usines pour qu'il y ait des usines sur place, pour changer.
Donc vous pensez que le gouvernement a changé radicalement son approche de cette crise, peut-être en intégrant dans sa politique ou dans sa réponse les causes structurelles dont parlait M. Radjana, peut-être ?
C'est pour ça que je disais déjà dans mon propos liminaire, je disais qu'il y avait déjà une prise de conscience. Parce que si on parle on parle d'une problématique qui date de plus d'une cinquantaine d'années, ça veut dire que jusqu'à présent, on a vu successivement les défaillances de l'État. Donc c'est déjà
c'est-à-dire
bien.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réponse durable, de réponse sur la durée. Durable,
parce qu'on se souvient même, bon, on ne va pas rentrer dans les ad hominem, mais dans l'ancien chef d'État qui avait parlé 2 ans à la fin de son mandat, qu'il y aurait 21 solutions qui seront présentées pour endiguer ce problème-là. Et on a vu qu'il n'y avait aucun effet.
Marc Ravalomanan ?
Non, c'était Erwadzon Ramapian qui était le dernier président avant le président actuel.
Et André Azuel.
Avant André Azuel. Donc, pour vous dire, en fait, c'est que non seulement il faut poser un diagnostic, c'est un peu ce qu'on a fait là aujourd'hui dans ce débat, il faut avoir une prise de conscience. Moi, je pense qu'elle est présente, cette prise de conscience. Et après, vous savez, il y a deux niveaux d'action et j'en aurais fini. Il y a le niveau, bien évidemment, où il faut éradiquer cette famine. Et comme ça a été dit à juste titre, parce qu'on dit qu'il y a 16 000 personnes qui sont en extrême famine et ça peut toucher jusqu'à 1 million de personnes touchées dans la région. Et il y aura les mesures qui sont des mesures structurelles qu'on pourra juger uniquement après 3 ans.
Les avoir mises en mandat.
On pourra dire si ça vraiment produit ses effets. Mais moi, je pense qu'en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place actuellement par les autorités locales.
Merci. Monsieur Rabenassoul, vous êtes d'accord qu'il y a un véritable déclic finalement, cette crise a créé au niveau du gouvernement ?
Qu'il y ait un véritable déclic, évidemment. Mais je fais quand même beaucoup de réserves et c'est avec beaucoup de méfiance que je regarde les initiatives qui se prennent actuellement, étant donné que le système ne change pas. Alors, si
quel est ce système qui ne change pas et qui ne permet pas de voir les résultats de toutes ces mesures, selon vous ?
C'est qu'on ne met pas au centre de toutes les préoccupations l'homme, c'est-à-dire les habitants même qui sont victimes de ces querelles. À partir du moment où, venant de l'extérieur, que ce soit des initiatives louables qui veulent les aider, on a déjà fait ça pendant une soixantaine d'années.
Comment voyez-vous la situation ? Comment voyez-vous l'approche la plus indiquée, la plus adaptée selon vous ? C'est-à-dire que le gouvernement arrête toute initiative, procède d'abord à la consultation des populations ou leurs leaders et recueille leurs réponses avant de proposer des mesures ?
Oui, aller même un peu plus loin. Dans mon esprit, il faudrait aller plutôt dans le sens d'une organisation du bien-vivre en commun de ses habitants. Ce qu'on peut faire, c'est les accompagner pour ce qu'ils veulent faire pour sortir de la situation actuelle et non pas.
Mais en attendant, monsieur Rabenassoul, il y a beaucoup de. L'impact de cette crise est énorme. Les populations, pour certaines, vendent même leurs ustensiles pour vivre. D'autres quittent de plus en plus le sud du pays pour aller vers la capitale, fuyant cette famine. Vous estimez que, malgré tout cela, il fallait attendre et consulter les populations avant d'agir ?
Je ne dis pas qu'il fallait attendre. Il y a des solutions d'urgence qu'il faudrait prendre tout de suite et ça a l'air de se prendre. Je me fais m'en féliciter. Et je le souhaite évidemment de réussite. Mais je ne crois pas du tout que ce soit pérenne pour que ça ne puisse pas à nouveau revenir dans la même situation si on ne procède pas à ce qu'on a déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, un changement radical. Et ce changement radical, je crois.
Que vous attendez. Pourquoi vous disiez tout à l'heure, M. Rabenassoul, et ensuite on écoutera M. Radjana, qu'il y a des gens qui profitent de cette crise ?
Évidemment, tout le monde le dit. Il y a des gens qui profitent de cette crise parce que le système est un système qui...
Qui profite de cette crise ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez comme information précise et recoupée ?
D'informations précises et recoupées, je n'ai pas, mais des informations qui me viennent de vous, les journalistes, c'est que finalement, dans toutes les aides que l'État reçoit, il y a une demande de transparence. Et cette exigence n'est pas obtenue. Et bon, tout le monde voit maintenant que lorsque des aides veulent venir, des ONG ou autres, ce sont les ONG même qui viennent sur place, faisant donc pas confiance à cet État qui est corrompu.
Merci.
C'est pour ça que je dis que le même système de corruption ne peut produire que les mêmes effets Même si on veut l'améliorer, même si on veut ajouter des dollars et des dollars, on ne fait que aboutir à la même situation catastrophique.
Merci. Monsieur Radjana, dites-moi, quelles sont d'après vous les solutions pérennes qui doivent être de manière urgente mises en place pour éviter le pire, puisque on annonce que décembre, le mois de novembre, de octobre à décembre, la situation pourrait empirer et davantage en janvier 2022.
Oui, juste une petite précision quand même. Quand vous avez cité toutes les mesures prises par l'État actuel, le régime actuel, le président actuel, il faut savoir que ça a été fait seulement cette année, alors qu'on est à mi-mandat du mandat du président actuel.
Entre Joël, puisque les présidentielles ont lieu en 2023.
Cela démontre en fait que, à la base, tous les dirigeants maliens ne mettent pas le Kéré comme une véritable priorité. C'est parce que maintenant, il y a une crise qui est à son paroxysme qu'on en parle et que les mesures, ce sont tous des intentions. Pour le moment, ce ne sont pas encore des actes ou des faits réalisés. Tout simplement aussi parce qu'on ne met pas au centre l'humain, la vie. Alors qu'il faut investir sur l'humain, sur la vie.
Donc vous pensez comme monsieur Rabenassoul disait tout à l'heure qu'il faut consulter les populations, les associer pour la recherche des solutions pérennes à cette crise ?
En fait, si on fait le diagnostic, l'étiologie, d'où vient la cause du mal, on a parlé tout à l'heure de centralisme, on a parlé tout à l'heure d'enclavement, et les solutions ne peuvent être que par des mesures d'urgence pour ce qui est de la famine actuelle, mais également des mesures pérennes. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur le temps long. Et le temps long ne peut passer que par la mise en place, la prise en de conscience pour le développement du territoire et le fait qu'on aborde de manière républicaine la solution de la famine comme étant une priorité nationale uniquement. Parce qu'on n'a pas besoin seulement d'humanitaire, on a besoin vraiment d'humanisme et on a besoin de la responsabilité de l'État, mais également de la solidarité des citoyens.
Merci, nous, exemple, monsieur Radjana. On marque une pause, on reviendra poursuivre la stratégie du gouvernement et la réponse dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment le gouvernement malgache s'attaque-t-il à la crise alimentaire dans le sud du pays? Les mesures mises en place sont-elles adaptées? Nous en parlons ce soir avec trois invités, Rabenassoul Adriamanga Nana, président de Fraternité protestante des Malgaches et Malgachophiles en France, Philippe Radjana, analyste politique, et Grégory Sileni, journaliste cofondateur de Madagascar Média, également ici en France. Nous allons continuer à parler des solutions attendues pour faire face à cette crise et surtout enrayer sa progression, puisque je disais avant la pause que l'avenir est de plus en plus inquiétant, prédisent les experts et les Nations Unies. Monsieur Sileni, pour vous, qu'est-ce qu'il faut comme solution pérenne pour qu'on n'ait plus à reparler de cette crise dans les mois à venir ? Allô, Monsieur Sileni ?
Il faut que les... Oui, vous m'entendez ?
Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, d'accord. Vous m'entendez ?
Oui, dans les années à venir, oui. Puisque les mois, c'est très court. Allez-y.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut que l'État-providence revienne. On a besoin d'un État fort. On a besoin d'un État qui soit plus près des populations. Et tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure du centre de commandement opérationnel contre le Kéré, hein, qui a été mis en place pour la gestion de cette crise dans le sud. Il y a des symboles qui sont forts. C'est le professeur Anta-Marie Daniel qui a été installé à la tête de ce commandement. Et c'était la même personne qui a géré la crise de la Covid-19 pendant la première vague qui a touché Madagascar. C'est pour dire que les autorités ont conscience que le danger est grave, que la situation est très grave et qu'il faille déployer les meilleures compétences pour pouvoir parvenir à endiguer ce phénomène-là. Et je pense aussi le fait que toujours sur les symboles, je vais atteler mon discours entre les symboles et les actions. Le fait que le président Andrajoen soit venu à deux reprises dans le sud, c'est aussi quelque chose de fort pour dire que voilà, il a entendu et il sait que voilà, c'est quelque chose de criant et quelque chose de structurel ce qui se passe à Madagascar, et donc il accorde une importance forte. Et la seconde chose en termes d'action, je pense que
Le plan d'action qui a été mis en place, où il y avait un colloque qui a été organisé au mois de juin pour dire justement comment va se décliner le plan d'action, avec notamment la mise en place de deux pipelines pour pouvoir permettre d'accéder à l'eau pour les populations dans l'extrême sud, sont une bonne chose. On sait aussi que l'association Fiti de la Première Dame à Madagascar est très engagée aussi sur place, avec notamment un maillage qui est fait entre des entreprises du secteur privé pour apporter de la nutrition et des nouvelles formes de nutrition pour la population, et les ONG qui sont sur place.
Merci.
Donc voilà, je pense que toutes les solutions, finalement, aujourd'hui, on le sait plus ou moins comment elles sont.
D'accord.
Maintenant, il faudra
donc
bien
vous
gérer
vous estimez
les
que le gouvernement est sur la bonne voie, en tout cas.
Je pense. Après, on pourra juger que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourra juger que dans deux ans, on verra, on tirera les bilans.
D'accord.
De savoir si tout ce plan et toutes ces choses qui ont été avancées ont bien pu se mettre en place et qu'il n'y ait pas eu de perte après toutes ces choses-là.
Merci. Monsieur Rabenassoul, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord tout à l'heure. Je pense aussi quand même pour ne pas être taxé de trop de pessimisme. Je dis que ce que fait le gouvernement actuellement est bien dans la mesure où, finalement, entraînée par la communauté internationale, elle met l'accent sur les victimes du kéré. Les gens, maintenant, c'est donné à manger, soigner. Et ça, je pense que ça suffit. Et c'est bien. Mais en même temps, il faudrait préparer la suite pour qu'on ne puisse pas se retrouver chaque année dans la même situation comme ça se prépare actuellement. Dans mon esprit, il y a des propositions, mais c'est juste des propositions de ma part. Il y a une sorte de prise de conscience qui doit être stimulée de la part de ce que j'appelle les victimes même du kéré. Parce qu'il faut bien dire, sur les 22 régions, il y a deux régions qui sont concernées. Donc, au niveau de l'espace, on sait déjà où est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on
Merci.
Fait dans la région Andrui, la région des Nuriers, et dans la région Anous, la région des Chèvres. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que jusqu'à présent, et d'ailleurs c'est très flagrant lorsqu'on regarde les images, les hommes sont absents, ou tout au moins ils sont très rares, parce qu'ils sont partis ailleurs.
Voilà.
Les hommes. Donc, il faudrait, je pense, à donner tout l'accompagnement. Je ne dis pas l'assistanat, mais l'accompagnement.
Merci
pour
beaucoup.
Que les habitants eux-mêmes
puissent se prendre en charge. Merci, M. Rabenassoul. On va laisser une minute à M. On va laisser à M. Radjana une minute pour conclure aussi. Le gouvernement est sur la bonne voie. Il s'est déplacé sur place. Les choses changent. Mais il y a des experts qui estiment, M. Radjana, que pour éradiquer la famine dans le sud, il faut absolument s'attaquer à la sécheresse.
Tout à fait. Mais en fait, tout est urgent, malheureusement, à Madagascar. Il y a l'éducation, la santé, l'énergie, la sécurité et l'eau pour tous. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et c'est à l'État de mettre ça en priorité. Nous, de notre côté, comme on est de la société civile, on pense également qu'il y a un rôle des citoyens pour une solidarité, pour la dignité. Remettre l'homme, la vie au centre. Et nous pensons pour le long terme, pour réfléchir en temps long, la mise en place inéluctable d'un fonds de solidarité pour la dignité. On en parlera une autre fois, mais le club 1808.com, qui est un site qu'on peut visiter, pourra donner les détails là-dessus. Il y a un rôle de l'État, mais c'est pas seulement l'État, il y a le rôle des citoyens aussi. Mais l'État doit assumer son rôle et ne pas se contenter de déclarations d'intention et mettre en priorité.
L'État a été invité justement à multiplier les forages de puits et les unités de dessalement.
Voilà. Depuis 1970,
comme on en a vu en Israël ou au Qatar.
Voilà. Et donc ça, c'est à mettre en place. Il y a des solutions qui existaient déjà, mais qui n'ont pas été, malheureusement, jusqu'ici, mises en œuvre en temps et en heure.
Merci beaucoup, Philippe Radjana, analyste politique et ancien vice-président du parti de feu Erizo Razafima à Léo, à Paris. Merci à Rabenassoul Adriamanganana, président de Fraternité protestante des Malgaches et Malgachophiles en France. Merci à vous, Grégory Sileni, journaliste cofondateur de Madagascar Média. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la réponse du gouvernement malgache face à la crise alimentaire dans le sud de l'île. Merci à Edouard Ning et à Hugo Vallière qui m'ont soutenu dans la préparation de cette émission que vous pouvez réécouter à 23h heure de Paris et bientôt à retrouver sur notre site africaradio.com. Bonsoir.